L'Éden de Satan numéro 46. La puissance de la révélation troisième partie. Le 8 mai 2022. Brian Kozurek. Pasteur. Apocalypse 3.14-19 écrit à elle, ange de elle, église de la Odyssée, voici ce que dit elle, Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. C'est ainsi. Parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. 17 Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu n'es mis, c'est pas que tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle et nu. 18 Je te conseille d'acheter de moi de l'huile ou réprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité n'y paraisse pas, et un collier pour oint dans tes yeux, afin que tu vois. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'y aime. Et donc du zèle. Et repens-toi. Remarquez qu'il dit, sois vêtu. Et comment sommes-nous vêtus? Nous sommes vêtus de la parole de Dieu. Éphésiens 6.13 Darby C. Esther pourquoi prenez l'armure complète de Dieu? Afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Le mot grec pour armure ici Esther, panoplia est notre équivalent Esther panoplie, qui Esther définit comme, un étalage ou exhibition large et impressionnant, tenue complète de cérémonie ou attirail. Habits et équipements spéciaux. Et bien sûr, l'attirail Esther définit comme les articles personnels, en dehors de la dot, réservés par la loi à une femme mariée. Ainsi, tout l'ensemble des vêtements que l'apôtre Paul énumère ici, qui constitue la tenue complète de l'épouse se compose non seulement de son vêtement de la parole de Dieu, mais aussi de tout l'attirail qu'elle porte avec sa robe de mariée. 14 Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité, et Jésus nous dit dans Jean 17.17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ainsi, si nos reins sont saints de la vérité, alors ils sont saints de la parole de Dieu. Et ayant revêtu la cuirasse de la justice, qui estère un pectoral de sagesse juste, qui estère une bonne compréhension de la parole de Dieu. Donc, notre pectoral estère la bonne division de la parole. 15 Et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, et cela Néhémie devrait pas avoir besoin d'explication, parce que l'évangile estère la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Ainsi, nos pieds sont aussi chaussés de la parole de Dieu. Et puis l'apôtre Paul dit au verset 16 par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, et nous savons que la foi estère une révélation, et nous savons comment vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. Donc, encore une fois, nous voyons que notre bouclier de la foi estère notre révélation de la parole de Dieu, par lequel vous pourrez éteindre tous les barres enflammées du méchant. Et puis Paul s'occupe enfin de notre tête, où il dit, 17 Prenez aussi le casque du salut, et nous savons que notre salut vient de la parole de Dieu. Éphésiens 1.13 En qui vous aussi vous avez cru, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Remarquez comment l'apôtre Paul nous dit que l'évangile estère notre salut. De Thessaloniciens 2.13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Encore une fois, L'apôtre Paul nous dit que notre salut vient par la foi en la vérité qui est l'évangile ou la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5.8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Et enfin l'apôtre Paul parle de nos mains, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Par conséquent, l'épouse doit être entièrement vêtue de la parole de Dieu dans chaque détail de son ensemble. Et enfin, nous voyons dans Apocalypse 19.7-8 Réjouissons-nous et soyons dans elle, allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de elle, agneau sont venues, et son épouse Esther préparée. 8 Et il lui a été donné de se revêtir des un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et, bien sûr la juste sagesse de quoi? Cela parle d'être vêtu de la juste sagesse de la parole de Dieu. Par conséquent, ce matin, je tiens à souligner la comparaison drastique entre la tenue vestimentaire de l'église de Laodicée, dont on dit être nu, aveugle et Néhémie sachant même pas sa condition, ce qui signifie qu'ils sont soit mentalement déficients, soit possédés d'un mauvais esprit ou les deux. Et comparer cela avec la parabole des 10 drachmes ou pièces dans Luc 15.8 où quelle femme 1, si elle a 2, 10, 3 drachmes, et qu'elle 4, en perd une, n, allume 5, une lampe, 6, Néhémie balaie la maison, et 7, Néhémie cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve, 9, lorsqu'elle a retrouvé, 8, elle appelle 9, ses amis et 10, ses voisines, ensemble, et dit, 11, réjouissez-vous avec moi, car 12, j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Et nous voulons comparer cette tenue de nudité, d'aveuglement et de déficience mentale concernant la condition de l'Église, que je mets en contraste avec la condition de l'épouse qui est vêtue de la parole de Dieu de la tête aux pieds et partout entre les deux, et comme Jésus l'a fait si bien comprendre dans la parabole des 10 drachmes. Quant à cette parabole, frère Branham dit dans son sermon, la seconde venue du Seigneur 17 avril 57-17 maintenant, dans la parole bénie, je veux juste lire un verset, ou une ligne ou deux, de l'Évangile de Saint-Luc, et le 15e chapitre, le 8e verset, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n, allume une lampe, Néhémie balaie la maison, et Néhémie cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines ensemble, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'y ai retrouvé la drachme que j'y avais perdue. 18 Maintenant, cela peut sembler une écriture très étrange pour la seconde venue de Christ, mais elle parle de la seconde venue de Christ, maintenant. Remarquez que dans votre Bible, il y a un point d'interrogation qui nous montre que c'est une question que Jésus pose. Par conséquent, en lisant cette phrase, nous devons également nous poser la question, qui est cette femme? Et que représente-t-elle? Parce que c'est exactement ce que Jésus nous demande. Il dit, quelle femme ou qui est cette femme qui jouerait cette scène compte tenu de cet ensemble de circonstances? Par conséquent, pour comprendre cette parabole, je l'ai décomposée en 12 points à considérer. Numéro 1, il faut savoir qui est cette femme, qui elle représente, car si nous Néhémie comprenons pas qui ou ce qu'elle représente, alors nous Néhémie pouvons même pas commencer à comprendre la parabole et comment elle pourrait s'appliquer à cette heure. Numéro 2, nous comprenons qu'elle a 10 pièces d'argent ou drachmes et nous devons donc comprendre pourquoi elle en a 10. Et ce que cela signifie? Qu'y a-t-il de si significatif dans ce chiffre 10 au point que Jésus l'a délibérément utilisé dans cette parabole concernant les pièces d'argent? Numéro 3, puisque nous savons qu'elle a des pièces d'argent, nous devons donc savoir ce que représentent ces pièces d'argent. Numéro 4, puisqu'elle a perdu une pièce et elle est devenue visiblement consciencieuse dans sa recherche, nous devons nous poser la question, que représente la pièce d'argent manquante et pourquoi est-elle si désespérée de la retrouver? Numéro 5, dans sa recherche de cette pièce d'argent manquante, elle allume une bougie. Par conséquent, nous devons nous demander, que signifie allumer une bougie? Numéro 6, et au cours de la recherche de cette pièce d'argent manquante, nous la trouvons en train de balayer sa maison, et nous devons donc nous demander, que signifie pour nous le fait de balayer la maison en 7 heures? Numéro 7, puisqu'elle semble être si consciencieuse dans sa recherche de cette pièce manquante, nous devons nous demander ce qui est si important à propos de cette pièce d'argent au point qu'elle bouleverse toute la maison dans sa recherche. Pourquoi est-elle si consciencieuse dans la recherche de cette pièce d'argent manquante? Quelles sont les circonstances qui la poussent à entrer dans ce qui semblerait être un état de panique, en essayant de retrouver cette pièce d'argent perdue? Numéro 8, une fois qu'elle a retrouvé sa pièce d'argent manquante, nous devons comprendre l'importance de l'appel qu'elle fait à ses amis et voisins de venir ensemble. Pourquoi les appelle-t-elle? Numéro 9. Ensuite, nous devons nous demander qui sont ses voisins et amis qu'elle appelle. Numéro 10. Et pourquoi les a-t-elle appelés ensemble? Pourquoi ensemble? Qu'est-ce que cela signifie? Appelant ces gens à se rassembler? Numéro 11. Que signifie se réjouir dans cette parabole? Numéro 12. Qu'y a-t-il de significatif dans ces mots, j'ai retrouvé ce qui était perdu? Dans le sermon, pourquoi nous n'émissons pas une dénomination? 27 septembre 58-31, William Branham dit, maintenant, une femme, dans la Bible, représente-t-elle l'Église? Combien le savent? Nous sommes une épouse. Elle, Église Esther, une épouse. Et étant donné que cette femme, dont Jésus parle dans cette parabole, Esther une Église, nous devons alors nous demander, quelle Église représente-t-elle ici? Parce qu'il y a une vraie Église et une fausse Église. L'une est appelée une épouse, tandis que l'autre est appelée une prostituée, parce qu'elle est infidèle à son mari. Et ainsi nous commençons à avoir une idée sur le comportement particulier de cette femme et pourquoi elle cherche si consciencieusement cette pièce d'argent. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, lorsque nous avons étudié la parabole des 10 vierges, nous avons constaté que ces vierges représentaient l'Église dans sa pureté sans aucun credo fait par l'homme parmi elles. Ils croient à la Bible seule. Il croit sola scriptura, comme l'a dit Martin Luther. Et nous avons trouvé dans cette parabole qu'il y avait 10 vierges, et donc nous avons examiné le dessin derrière le nombre 10 concernant les vierges, et nous avons trouvé qu'il représentait l'achèvement de tout un système. Numéro 2, nous savons qu'elle a 10 pièces d'argent et nous devons donc comprendre pourquoi elle en a 10. Et ce que cela signifie? Pourquoi Jésus utilise-t-il 10 pièces d'argent pour sa parabole? Et qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, comme nous l'avons énoncé la semaine dernière, le nombre 10 est l'un des nombres parfaits et il est significatif parce qu'il représente l'ensemble du système numérique qui arrive à son terme. Par conséquent, le nombre 10 signifie que tout le cycle est maintenant terminé. Le chiffre 10 est utilisé tout au long des Écritures pour décrire la fin d'un cycle, comme Dieu a achevé le cycle de l'homme à l'époque antédiluvienne avec Noé. Noé était la 10e génération d'Adam apportant une nouvelle alliance de Dieu, et Abraham était la 10e génération de Noé apportant une nouvelle alliance inconditionnelle de Dieu. Ensuite, il y a les 10 commandements, et bien sûr les 10 espions que Moïse a envoyés pour espionner le pays. et il y avait 10 rangées de 10 talents d'argent, qui constituaient la base ou les mortaises du tabernacle dans le désert. Les 10 mesters, un dixième, qui représente le tout qui est perdu à Dieu, montrant ses revendications sur l'ensemble, et il y a eu 10 plaies en l'Égypte qui ont amené à sa fin le cycle de la puissance mondiale d'Égypte. Par conséquent, comme nous l'avons vu la semaine dernière, le chiffre 10 représente une conclusion et fait allusion à l'entrée dans un cycle complet. Et ici, dans cette parabole, nous voyons qu'il y a 10 pièces d'argent auxquelles Jésus se réfère. Maintenant, 10 parle de la fin. Ainsi nous voyons à nouveau dans cette parabole que Jésus parle de la fin de quelque chose. Et puisque le chiffre 10 se réfère aux pièces d'argent dans cette parabole, nous devons comprendre ce que signifie l'argent afin de savoir ce qui arrive à son cycle complet, et donc à sa fin. Maintenant, puisque les 10 pièces d'argent concernent cette femme, nous devons comprendre ce que c'est tellement important pour cette femme qu'elle devient obsédée par la recherche de cette pièce manquante. Et comme cela a à voir avec la femme, nous devons découvrir ce que représente l'argent afin de pouvoir comprendre sa réaction au fait de n'aimer pas l'avoir. Parce que s'il y représente la conclusion de quelque chose, alors cela concerne la femme et cela peut nous dire pourquoi elle est si désespérée de la trouver. Maintenant, rappelez-vous, elle, une femme, représente l'Église. Numéro 3, nous savons qu'elle avait des pièces d'argent, et donc nous devons savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. Maintenant, dans les Écritures, l'argent représente la rédemption par l'affinage. Maintenant, la rédemption signifie ramener à son état d'origine, et affiner signifie amener à la pureté. Et l'affinage représente le processus par lequel les scories sont retirées de l'argent afin qu'elles puissent être montrées dans sa pureté. La scorie Esther, ce qui n'est mis, fait pas partie de l'argent pur. C'est Esther l'impureté que l'on trouve dans l'argent ou tout métal précieux. Et la scorie représente donc le péché dans notre vie. Ces choses qui nous rendent impurs. Et Pierre 1.18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de elle, or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Psaume 12.7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, et cette foi épurée. Psaume 66.10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Nous voyons donc que cette femme avait ces pièces d'argent qui représentaient la pureté et la purification. Ils représentaient tout ce qu'elle était pour son mari et, en en perdant un, cela aurait une grande conséquence pour sa relation avec son mari. S'il rentrait à la maison et que Néhémie lui manquait qu'une seule de ses pièces, Néhémie la recevrait pas comme sienne. Donc, ces pièces représentaient non seulement sa purification, mais aussi sa rédemption. Et le mot racheter signifie racheter ou ramener à sa position légitime. Et quand il est revenu, elle, ayant les 10 pièces d'argent, représenta le fait qu'elle s'est préparée à être ramenée en sa présence et à recevoir sa position légitime à ses côtés. Mais de manquer une pièce d'argent signifiait le rejet, le déshonneur et la séparation. La seconde venue du Seigneur, 17 avril 57-54, et l'Esther, plus tard que nous le pensons. Nous n'aimons venons pas à elle, Église, pour occuper un banc. Nous n'aimons venons pas à elle, Église, pour entendre un bon sermon. Ou nous n'aimons venons pas à elle, Église, pour entendre de la bonne musique. Ils ont tous leur place. Mais ce que nous ferions mieux de faire en venant à elle, Église, c'est, Esther, de vérifier avec Dieu le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à comparer cela, dit-il, à une femme. Et dans notre sujet de ce soir, nous trouvons cette femme. Son mari était parti, et elle avait perdu elle une des pièces de monnaie de sa tablette. Maintenant, je vais essayer d'expliquer cela. 56 au jour 8. Si une femme est intermariée, elle devrait porter une alliance comme signe qu'elle est intermariée. C'est Esther pour empêcher les autres hommes d'avoir quoi que ce soit à voir avec elle. Il regarde et il voit que c'est Esther une femme mariée. À cette époque, Hélène avait pas d'alliance. Ils avaient une tablette. Hélène appelle tablette. Elle se les met sur la tête. Elle avait 10 pièces et s'entourait leur tête. Et c'était un signe qu'elles étaient des femmes mariées, et qu'aucun homme némi devait coucher avec elles, aucun jeune homme némi devait flirter avec elles. Elles étaient mariées. 61 O. Si jamais il y a eu un temps où l'Église devrait faire l'inventaire pour savoir si vous avez toutes les pièces, ce devrait être maintenant. Il fait nuit. Les hantises et les nuages même de la destruction de la civilisation sont suspendus au-dessus de la terre. Le péché et la débauche sont partout. Nous vivons une époque terrible, où il y a de la méchanceté, des gens qui vont à l'église juste pour une imposture, des gens qui vont à l'église pour essayer de se cacher de leur bassesse. Des gens qui vont à l'église et professent le christianisme et vivent comme le reste du monde. Buvant, fumant, pariant. Les femmes sont immoralement vêtues, portant des vêtements qu'elles n'y porteraient pas dans leur vestiaire, dans la rue devant le public. Et elle, amour fraternel Esther une chose qui Esther dépassée. Presque. Nous n'avons pas perdu une pièce, mais nous avons perdu pratiquement chacune d'elles. 62 et il faisait nuit. Et rappelez-vous, son mari allait revenir. Et s'il la trouvait avec l'une de ses pièces manquantes, cela montrait qu'elle avait été marquée comme prostituée. Et si elle était défiée, ou plutôt, s'était souillée de quelque manière que ce soit, et que cela avait été vu par les gens, on l'emmenait devant le sacrificateur et témoignait qu'on l'avait trouvée dans telle situation, et le sacrificateur qui constatait qu'elle était une femme mariée, enlevait la pièce de sa tablette pour laquelle elle avait mal agi. Si elle avait gâché sa vertu, on la lui enlevait. Si elle avait flirté, montrant qu'elle n'était pas fidèle à son mari, on enlevait celui-là. Quoi que ce soit, on la retirait. Et quand son mari revenait, il constatait qu'elle avait été marquée, et il divorçait d'elle immédiatement et elle n'allait rien avoir avec une telle femme. Il n'aimait voulait pas d'une telle femme. Alors on avançait vers la tombée de la nuit quand elle Esther rendu compte qu'elle avait perdu quelque chose. Il était temps pour son mari de venir. Et qu'il se faisait tard. 70 écoutez. Elle église Esther en train de se prélasser. L'église n'a plus de conscience. Vous pouvez à peine les réveiller. La Bible disait qu'ils entreraient dans cette condition quand ils diraient, voici, notre Seigneur tarde à venir. Et ils vont se dévorer et se mordre les uns les autres, et ainsi de suite, et se battre. C'est Esther exactement cette heure-là. Tout Esther prêt. On a tourné les pages. Comme c'était comme ça, et à l'Esther proche, la venue du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il y avait une loi du mari jaloux, et si le mari rentrait à la maison et soupçonnait que sa femme avait été infidèle pendant son absence, il y avait une certaine chose qu'il pouvait faire, et nous le trouvons dans Nombre chapitre 5. Nombre 5.11 L'Éternel parla à Moïse. Et dit, 12 parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, et lui devient infidèle. 13. Si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle laisse Esther souiller en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait. 14. Et si le mari Esther saisit d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui est-ce Esther souillée? Ou bien est-ce il Esther saisie d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme? Qui n'est mi-est Esther point souillée? 15. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur, et apportera en offrande pour elle un dixième des éphas de farine des orge. Il n y répondra point des huile, et n y mettra point des encens, car c'est Esther une offrande de jalousie, une offrande de souvenir, qui rappelle une iniquité. 16. Le sacrificateur la fera approcher, et la fera tenir debout devant elle, éternelle. 17. Le sacrificateur prendra de elle au sein dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle, et la mettra dans l'eau. 18. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant elle, éternelle. Il découvrira la tête de la femme, et lui posera sur les mains elle, offrande de souvenir, elle, offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères, qui apportent la malédiction. 19. Le sacrificateur fera jurer la femme, et lui dira, si aucun homme a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu l'émites en aisailles point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction d'émis te seront point funestes. 20. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en aisailles détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi. 21. Et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira, que elle, éternelle, te livre à la malédiction et à elle, exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. 22. Et que ces eaux, qui apportent la malédiction, entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira, Amen. Amen. 23. Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. 24. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire elle amertume. 25. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera elle offrande de côté et des autres devant elle, éternelle, et il elle offrira sur elle autel. 26. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur elle autel. C'est Esther après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. 27. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle est Esther souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire elle amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. 28. Mais si la femme Néhémie s'Esther point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. 29. Telle Esther la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille. 30. Et pour le cas où un mari saisit d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant elle, éternelle, et lui appliquera cette loi dans son entier. 31. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Maintenant, remarquez ici que le Esther amer est dans la version du roi Jacques, version autorisée de la Bible. Il Esther dit que l'eau doit causer la malédiction. Mais ce qui cause réellement la malédiction, c'est Esther de savoir si la femme Esther coupable ou non. Car le Néhémie provoque pas la malédiction, mais n'Esther qu'un catalyseur qui manifeste ce qui Esther déjà là. Si la femme Esther est innocente, alors il n'y a pas de malédiction sur elle, mais seulement une bénédiction. Tout comme les eaux du déluge. Les mêmes eaux qui ont détruit les méchants de la terre, ont lavé la terre des voies du péché de l'homme. C'est Esther la même eau qui a élevé Noé au-dessus de la terre, loin de la mort et de la destruction qui était en dessous. Et l'eau amère représente le lavage de l'eau par la parole. Tout comme le rouleau amer, que le prophète a mangé, représentait également la parole de Dieu, douce au goût mais amer à l'estomac. Numéro 4, que représente la pièce d'argent manquante et pourquoi Esther-elle si désespérée de la retrouver? Pourquoi s'inquiète-t-elle du fait qu'elle n'en a que 9? Frère Branham a également dit dans la seconde venue du Seigneur 17 avril 57 chacune de ces pièces. Si seulement on avait le temps mais que je n'en ai pas, je vais essayer de tenir ma parole aussi exactement que possible. Je pourrais vous dire ce que chacune de ces pièces signifiait. On elle a placé là-dedans, et chaque pièce signifiait une certaine vertu de cette femme. La première signifiait son amour pour son mari. La deuxième, son serment de vertu de vivre une vie pure pour lui. Et la troisième et la quatrième et la cinquième, jusqu'à la neuvième et à la dixième. 59 Si vous voulez le chercher, lisez Galates 5. Vous découvrirez que cette femme représentait l'Église et que l'Église Esther est une épouse pour Christ. Et la tablette QL, Église Esther sont ses portées se trouve dans Galates 5. Qui Esther, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bénignité, la patience. C'est Esther la tablette qui Esther censée être portée dans elle, Église, l'amour fraternel, la bonté, la communion fraternelle. Et cette femme, quand il, ça devait être la tombée de la nuit, qu'elle s'Esther rendu compte qu'elle avait perdu l'une de ses pièces. Galates 5h22 Mais le fruit de elle, esprit, c'est Esther 1. Elle, amour. 2. La joie. 3. La paix. 4. La longanimité. 5. La bonté. 6. La bénignité. 23. 7. La fidélité. 8. La douceur. 9. La tempérance. La loi haine Esther pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par elle, esprit, marchons aussi selon elle, esprit. Maintenant, ce n'est mis sans que 9 fruits de l'esprit, mais le fruit le plus important, le 10e fruit de l'esprit manque ici. Et sans ce fruit, vous pourriez avoir tous les 9 fruits de l'esprit, qui sont énumérés dans Galates chapitre 5. Et être encore trouvé adultère, comme la femme le craignait dans cette parabole. Frère Branham dit dans son sermon le paradoxe 6 février 64 petit déjeuner P, 78 nous, pentecôtistes, avons placé nos évidences dans le fait de parler en langue, et combien nous avons été bernés en cela. Et combien des entre eux disent que le fruit de elle, esprit stérel, évidence, combien vous êtes bernés par cela. Non, monsieur. Cette femme avait 9 pièces d'argent, elle avait 9 fruits de l'esprit, et pourtant elle craignait toujours que la pièce manquante n'aimait la dévoile comme une femme adultère. Et combien de gens doux et humbles, aimant la paix et d'un esprit doux ont refusé le Dieu même du ciel, qui Esther descendu avec un cri. Ils l'ont rejeté quand il s'Esther manifesté en son fils et ils le rejettent encore aujourd'hui. D'après le sermon, messieurs, nous voudrions voir Jésus 4 mars 64 38 frère Branham dit, ces pharisiens pouvaient montrer 10 fois plus de fruits que Jésus. Le saviez-vous? Dieu identifié par les caractéristiques 11 mars 64 p, 23 certains ont dit, ce sont les fruits de l'esprit. Et c'est Esther faux. La seule évidence, Esther, c'est Esther qu'on a la confirmation. Quand Dieu lui-même s'identifie dans la parole promise de Elheur. Voilà. Qui avait plus de fruits de l'esprit que ces gentils, vieux prêtres, qui circoncisaient les enfants, et les bénissaient, et tout le reste. Et voilà, ce type Jésus, qui Esther venu renverser leur autel de sacrifice à coups de pied, les a regardés avec colère, les a battus, les a écrasés, sans aucune identification du tout. L'écriture Esther son identification. Hélène avait pas de carte de communion fraternelle. Hélène appartenait à aucune organisation. Mais Dieu a parlé de lui. C'était ça son identification. C'est Esther l'identification authentique de Dieu à n'importe quelle heure. C'est Esther son identification. C'est Esther ce que c'est Esther. Les écritures promises identifiées par la caractéristique de la promesse qui Esther Dieu, et Dieu Esther la parole. Et la caractéristique de cette promesse étant identifiée, cela fait du croyant un croyant. Jésus elle a dit, et cela règle la question. Amen. Remarquez, maintenant nous découvrons cela, les caractéristiques elle identifient. Comme il a dit, si cela Néhémie le fait pas, alors Néhémie me croyait pas. Maintenant, Jésus a dit que cela elle identifierait. Que ferons-nous de Jésus 26 janvier 64 p. 48 La science chrétienne a dit, aimez, et vous avez les fruits de l'esprit, mais les miels ont pas. Il nie la divinité de Jésus-Christ. Quelle en est-elle évidence? Quand cet esprit, qui Esther en vous, peut ponctuer chaque promesse des un amen, et que Dieu confirmera cela. C'était exactement comme ça avec Jésus-Christ. Oh oui. Ils avaient plus de fruits de l'esprit. Ils avaient toutes sortes d'évidences. Vous Néhémie pouvez attribuer aucune évidence à quoi que ce soit. Mais au fait que Dieu lui-même manifeste sa parole. C'est Esther la seule vraie preuve qui prouve que vous êtes chrétien. Qui dites-vous que c'est Esther? 27 décembre 64 p. 103 L. Évidence du Saint-Esprit Esther de croire en sa parole. Et a toujours été. Et à chaque âge. Si vous pouvez recevoir les paroles. Ces prêtres battent à Jésus de millions de kilomètres, quand on en venait au fruit de l'esprit, doux, paisible, docile et humble. Il a déchiré des églises, les a renversés, a arraché les gens, les a traités de serpents dans l'herbe, et tout. Vous voyez? Mais il était cette parole. Il était cette parole. C'est Esther tout. Croyez Dieu. Dieu Esther la parole. Croyez-la. Maintenant, nous vous avons montré ici que d'avoir neuf fruits de l'esprit Néhémie signifie toujours rien quand l'époux vient pour son épouse. S'il s'avère qu'il lui manque ce dernier fruit, alors elle s'avère toujours divorcée comme une prostituée et séparée de sa présence pour toujours. Alors, quel Esther ce dixième fruit qui Esther si crucial, que sans lui vous n'avez pas celui qui est Esther venu pour vous? C'est Esther un fruit de l'esprit, mais pas net se mentionné dans Galates chapitre 5. Les oints du temps de la fin 25 juillet 65 m 1 p. 42 remarqué. Mais c'est Esther ce qu'il produit ce qui fait la différence pour vous. À leur fruit, a dit Jésus, vous les reconnaîtrez. Ensuite il dit, quel Esther le fruit? Le parole pour? Le fruit pour la saison? Esther ce que Esther? Leur enseignement. L'enseignement de quoi? L'enseignement de la saison? Quelle heure est l'Esther? La doctrine de l'homme? La doctrine dénominationnelle ou la parole de Dieu pour la saison? Autrement dit, la doctrine de l'homme, la doctrine des nominationnels, ou la doctrine de Dieu, alors qu'elle Esther le dixième fruit, ou la dixième pièce d'argent raffiné? Qui était cette jeune femme? C'est Esther la doctrine de Dieu, la doctrine de Christ. Il doit en être ainsi parce que cette femme savait que si son mari rentrait à la maison et qu'elle Néhémie l'avait pas, elle serait écartée de sa présence et elle Néhémie l'aurait plus pour mari. Il lui dirait, je te connaissais comme ma femme, mais je Néhémie te connais plus comme ma femme. Et l'apôtre Jean nous a dit dans 2 Jean 9. Celui qui a la doctrine de Christ a Dieu. 2 Jean 9 quiconque transgresse et Néhémie demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Néhémie fait point écho à Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a fait écho aux deux. Au Père et au Fils. Et il nous a aussi dit, dans 1 Jean 2.23 quiconque ni le Fils n'a pas non plus le Père. Mais, quiconque confesse, reconnaît le Fils a aussi le Père. Écoutez, ils disent que nous blasphémons parce que nous appelons Jésus le Fils de Dieu. Mais ils ont aussi dit que Jésus avait blasphémé à cause de la même chose. Jean 10.36 Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'y ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jean 5.23 Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5.26 Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Maintenant, nous savons que c'est Esther la doctrine de Christ parce que c'est Esther la doctrine que Jésus a reçue de son Père et qu'il nous a enseignée. Jean chapitre 7.16 Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui aime à envoyer. Et il a dit aussi, Jean 14.10 Néhémie, crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je Néhémie les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est Esther lui qui fait les œuvres. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de ce à quoi ressemble ce dixième fruit de l'Esprit, frère Branham nous dit dans le sermon Messieurs, nous voudrions voir Jésus 4 mars 64 p. 28 où il dit, vous voulez voir ce qu'Esther le fruit de l'Esprit? Regardez ce que la Bible promet pour une certaine heure. Puis veillez à ce que cela soit confirmé. Voilà l'évidence. Voilà la preuve que vous avez reçu le fruit de l'Esprit. Pouvoir voir la parole de Dieu manifestée à l'heure où vous vivez. Et vous qu'il a vivifié. Vous qui étiez morts dans les offenses et le péché. Numéro 5, que signifie allumer une bougie? 65 L'Église fera mieux de s'examiner par la parole de Dieu, notre pureté, notre loyauté, notre dévotion. Nous sommes devenus des commères, des raconteurs de contes, des fumeurs de cigarettes, des médiseurs, des Jézabel maquillées, tout ce que fait le reste du monde dans le calendrier. L'Église chrétienne s'associe à ces choses au jour, huit au point que vous pouvez à peine distinguer une de autre. Il est certain que nous fassions inventaire. Il se fait tard. Maintenant, dans ordre. Il était si tard au point qu'elle a dû allumer une bougie. Et elle avait une bougie. Non seulement elle avait une bougie, mais elle avait un balai et elle s'était mise à faire le ménage. Oh, frère, si jamais on a eu besoin d'un temps pour allumer une bougie, proclamer la lumière de l'Évangile, amener le Saint-Esprit dans l'Église. Pas tant pour émotion, pas pour quelque chose de fantastique, pas pour un travail émotionnel, pas pour un saut de joie, mais pour expérience de sonder son cœur, où les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. C'est Esther juste. Nous sommes au temps de la fin. 68 et elle alluma une bougie, pour se donner de la lumière. Et, frère, chaque petite bougie ici devrait être allumée ce soir. Frère, nous, elle, Église du Dieu vivant, en ces grandes heures où nous vivons maintenant, il nous incombe de vérifier, d'aller devant Dieu, d'allumer la bougie de la parole de l'Évangile, de nous examiner et de découvrir s'il ne nous manque rien. Et surtout quand nous voyons toutes ces choses arriver. Nous sommes au temps de la fin. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espérance dans le monde pour elle, Église. 71 Elle, Église luthérienne a perdu sa lumière. Elle, Église méthodiste a perdu sa lumière. Elle, Église baptiste a perdu sa lumière. L'Église pentecôtiste a perdu sa lumière. Chaque lumière semble être éteinte. Les pentecôtistes, les gens de la sainteté, agissent exactement comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les baptistes agissent comme les luthériens. Les luthériens agissent comme les catholiques. Et tout cela est revenu un grand conglomérat de péchés. C'est Esther juste. Nous sommes au temps de la fin, de la venue du Seigneur. Numéro 6, que signifie balayer la maison? La seconde venue du Seigneur 17 avril 57-68 non seulement cela, mais elle avait un balai, et les voisins pouvaient voir voler la poussière. Elle a eu un vrai moment de ménage, car son mari était sur le point de revenir. Et s'il la tapait sans cette pièce, elle était une prostituée. 71 maintenant, elle a eu un temps de ménage. Elle a frotté les planchers. Elle a balayé les murs. Elle a enlevé les toiles des araignées. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle avait perdu. 82 C. Esther le mari et la femme. Qui Esther le type de Christ et de son Église. Et quand vous allez à votre église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de la ville. Vous avez peut-être le plus haut clocher de la ville. Vous avez peut-être le meilleur orgue à tuyaux. Vous pouvez être les mieux habillés. Vous pouvez chanter comme un oiseau moqueur. Mais tout cela, si vous embrassez et flirtez avec le monde, ce baiser sur les joues de Christ est un baiser de Judas. Il n'aime, il veut rien avoir à faire avec vous. Il regarde votre bague de fiançailles, et il trouve la tablette dérangée. Il trouve que l'amour a disparu. C'est Esther juste une forme. Il trouve que la loyauté a disparu. Vous avez commis des fornications avec le monde. Vous allez à des danses, et à des soirées de boogie-woogie. Et vous regardez de vieux et sales programmes de télévision. Vous commettez adultère avec Christ, à son endroit, alors que vous appelez votre mari. La Bible dit, tu dis, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Mais il a dit, tu n'es mis, c'est pas que tu es à nu, misérable, aveugle, pauvre, et que tu n'es mis, le sais pas. Il Esther tendait allumer une bougie et de balayer la maison. La venue du Seigneur Esther proche. Numéro 7. Pourquoi Esther elle si méticuleuse à rechercher cette pièce d'argent manquante? Quelles sont les circonstances qui la poussent à se mettre en mode panique pour retrouver cette pièce d'argent perdue? Les esprits séducteurs, 24 juillet 55-35 mercredi soir dernier. Je prêchais sur la femme qui avait la tablette sur la tête, ou plutôt elle avait perdu une de ses pièces, et elle balayait la maison et essayait de la retrouver avant que son mari Néhémie revienne. Et nous avons découvert que cette femme était une femme de type oriental et qu'elle représentait l'Église. Et alliance n'était pas portée au doigt, elle était portée sur la tête, incrustée de 9 pièces d'argent. Et quand une femme devient une prostituée, On lui enlève une pièce d'argent et on montre ainsi qu'elle est Esther, une prostituée. Et donc cette femme a perdu elle une des pièces. Elle n'est Esther pas une prostituée, mais son mari était en déplacement. Et elle essayait de se dépêcher de retrouver cette pièce, pour la remettre sur sa tablette, car quand son mari reviendrait, il saurait qu'elle a été prise dans la prostitution, et cela signifierait une famille brisée et ainsi de suite. Et j'y ai appliqué cela pendant quelque temps à l'église. Elle a perdu beaucoup de grandes choses. Et l'Esther tant que le père vienne, alors nous devons les traquer. Numéro 8. Quelle est Esther, la signification de l'appel à ses amis et voisins de venir ensemble. La fête des trompettes, 19 janvier 64 matin p. 108 maintenant. Dès que cette église, elle, épouse Esther rassemblée, elle Esther enlevée. Dans ce mystère du septième sceau, ou le septième sceau, le mystère du départ. L'Éden de Satan, 29 août 65 p. 18. Les gens adorent Satan sans le savoir, pensant qu'ils adorent Dieu. Alors que nous sommes avertis par la prophétie dans 2 Thessaloniciens que, lisons simplement cela, 2 Thessaloniciens, le deuxième chapitre. Prenons un instant, si je le peux tout de suite. J'aimerais lire que juste une. Je crois 2 Thessaloniciens. J.L. Écriture ici elle dit. Maintenant, nous vous supplions, frères, par la venue, ce mot, Esther Parousia, du Seigneur Jésus, et par notre rassemblement à lui, et nous voyons la venue du Seigneur et le rassemblement à lui, alors que Dieu rassemblera son peuple à lui dans les derniers jours, le rassemblement des gens au Seigneur, pas à l'Église, au Seigneur, se rassemblant à lui. Numéro 9. Qui sont les voisins et amis qu'elle appelle? Je crois que ce sont tous ces gens dans le monde qui ont été appelés par le dixième fruit de l'esprit qui Esther la doctrine de Christ, l'enseignement de l'heure. Ils ont été appelés au souper des noces et sont sortis avec la même excitation que la femme, l'Église, qui a retrouvé ce qu'elle pensait avoir perdu. Et ils se réjouissent comme s'ils avaient eux aussi perdu leur pièce d'argent, et l'ont maintenant retrouvé. Luc 14.23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Matthieu 22.9. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Frère Branham dit, maintenant, elle a eu un temps de ménage. Elle a frotté les planchers. Elle a balayé les murs. Elle a enlevé les toiles des araignées. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle avait perdu. Et quand elle a fait, elle a appelé ses petites églises sœurs à venir maintenant. Peu importe si vous êtes méthodiste, baptiste, pentecôtiste, presbytérien, venez, réjouissons-nous ensemble. Quand ce moment viendra, quand elle, Église, retrouvera son amour fraternel, quand elle, Église, retrouvera sa sainte naissance, quand elle, Église, retrouvera sa position Christ, elle appellera les autres membres du corps, venez vous réjouir avec nous. Dieu veut que elle, Église, elle aime. Numéro 10. Pourquoi ensemble? Qu'est-ce que cela signifie? Son appel à se rassembler? Cela signifie une unité d'esprit. Comme Paul l'a dit dans Corinthiens 1.10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage, et à n'aimer point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Numéro 11. Que signifie se réjouir dans cette parabole? Apocalypse 19.7. Réjouissons-nous et soyons dans elle, allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de elle, agneau sont venues, et son épouse Esther préparée. 8 Et il lui a été donné de se revêtir des un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Numéro 12. Qu'Esther ce qui Esther significatif dans l'émoji est retrouvé ce qui était perdu. Rappelez-vous, dans l'alpha, elle a perdu quelque chose aussi, et l'alpha doit devenir l'oméga. Et qu'avait-elle perdu lors de ce premier âge de l'Église? Elle a perdu son premier amour. De même, l'Église a perdu son premier amour. Et quand Dieu est venu avec un cri en cette heure et nous a restauré ce premier amour, nous n'avons pas pu nous retenir et nous avons appelé ensemble l'épouse du monde entier pour qu'elle sache ce que nous savons, pour voir ce que nous voyons, pour entendre ce que nous entendons et pour partager en retrouvant notre premier amour. Laissez passer la pression. 18 mai 62 soir 102 Notre Père Céleste, nous pouvons voir, Seigneur, que elle, Église, a perdu son premier amour. Nous pouvons voir que elle, Église, dans son intégralité, dans toute la nation, a chuté. Non seulement la nation, mais le monde. Nous nous rendons compte que tu as parlé elle, autre matin, que tu as dit que le temps des semis est terminé ici, que le seul endroit pour semer des semences, c'est Esther dans les champs à l'étranger. C'est Esther un glanage sur la chaume. Et, ô Dieu, vraiment ces paroles étaient justes. 368-1 Résumé des âges, l'exposé des sept âges de l'Église, CPT 10 dans cet âge, la véritable Église avait perdu son premier amour. Cet amour était typifié comme elle, amour de elle, époux et de elle, épouse lors de leur mariage et des premières années de leur vie conjugale. Il y avait un refroidissement de cet amour complet et de cet abandon à Dieu. 77-1 Âge de l'Église d'Éphèse, l'exposé des sept âges de l'Église, CPT 3 Le nom des Éphèse lui-même a un sens composé étonnant, visé et relâché. Les aspirations élevées de cet âge, qui avaient débuté avec la plénitude de l'Esprit, la profondeur de Dieu par laquelle il visait l'évocation céleste de Dieu, commença à céder la place à une attitude moins vigilante. C'est Esther avec moins des adorc auparavant qu'on suivait Jésus-Christ, ce qui présageait que, dans les âges suivants, le véhicule physique appelé elle, Église allait sombrer dans elle, horreur de la profondeur de Satan. Elle s'était relâchée et commença à dériver. Déjà, cet âge rétrogradait. Il avait abandonné son premier amour. La minuscule semence plantée dans cet âge d'Éphèse allait finir par se développer, dans elle, esprit de elle, erreur, au point que tous les oiseaux impurs de elle, erre feraient de ses branches leur repère. Cette petite pousse semblerait, aux yeux de la nouvelle Ève, la nouvelle Église, si inoffensive des, après le raisonnement humain, que cette nouvelle Ève se laisserait séduire par Satan. Elle, HD, Éphèse lui avait offert le meilleur de Dieu, et elle avait tenu bon pendant un moment, mais ensuite elle laisse Esther relâcher et, dans ce moment d'inattention, Satan a planté la semence de la ruine totale. 88-2 Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit, tout cela commence à s'estomper. Et cette Église, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'est refroidie et Esther est devenue un peu formaliste. S'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens, à l'époque. Ils devenaient un peu formalistes. Elle, abandon à Dieu disparaissait, et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait des eux, alors qu'ils commençaient à se soucier de ce que le monde pensait des eux. La deuxième génération qui a suivi était exactement comme Israël. Ils ont réclamé un roi pour être comme les autres nations. En faisant cela, ils ont rejeté Dieu. Mais ils ont fait quand même. C'est Esther, histoire de Église. quand elle pense plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu. On est imitaire de pas aller voir arrêter de faire ce qu'il faisait avant, et se mettre à faire des choses qu'il n'aimait faisait pas au départ. Il change de façon de s'habiller, des attitudes de comportement. Il se relâche. C'est Esther ce que signifie Éphèse, relâchement, laisser aller. 89-1 Ce cycle de réveil et de mort a toujours été. Il suffit de vous rappeler ce dernier mouvement de Dieu par elle, esprit. Quand les hommes et les femmes s'habillaient comme des chrétiens, qu'ils allaient à leur église, qu'ils priaient toute la nuit, qu'ils allaient au coin de la rue et qu'ils avaient peur des manifestations de elle, esprit. Ils quittaient leurs vieilles églises mortes, et ils faisaient le culte dans des maisons ou de vieux entrepôts. Ils avaient une réalité. Mais avant longtemps, ils ont eu assez d'argent pour construire des églises neuves, toutes belles. Ils ont mis une chorale, au lieu de chanter eux-mêmes pour Dieu. Ils ont donné des uniformes à la chorale. Ils ont organisé un mouvement. Elle, homme, en a pris la direction. Ils ont au fait de se mettre à lire des livres qu'on a mis devrait pas lire. Ils ont levé les barrières, et des boucs sont venus prendre la relève. Les cris de joie avaient disparu. La liberté de elle, esprit était partie. Oh! Ils ont bien entretenu une forme, mais le feu était éteint, et il n'y reste pas grand chose d'autre que des cendres noircies. 89-2 Il y a quelques instants, j'y ai dit que j'en comprenais ce que c'était que d'aimer Dieu. Si elle, Église, commençait à perdre ce premier amour pour Dieu, ce grand apôtre de elle, amour, allait certainement le remarquer. Dans Jean 5.3, il dit, car elle, amour de Dieu, consiste à garder ses commandements, sa parole. Le moindre petit écart par rapport à cette parole était un pas qui éloignait de Christ. Les gens disent qu'ils aiment Dieu. Ils vont à elle, Église. Ils crient même. Ils se réjouissent. Ils chantent et ils ont beaucoup d'émotions. Mais une fois tout cela terminé, observez pour voir est-ce ils sont dans la parole. Est-ce ils marchent selon la parole. Est-ce ils la vivent. Est-ce ils font tout le reste, et qu'ils n'aiment et marchent pas selon cette parole. Alors ils peuvent bien dire qu'ils aiment Dieu, mais leur vie dit autre chose. Je me demande si Jean a pas vu beaucoup de cela avant de mourir. Des gens qui disaient aimer Dieu, mais qui n'obéissaient pas à sa parole. Oh! Église d'Éphèse, quelque chose est en train de vous arriver. Quelqu'un essaie, soit d'ajouter à cette parole ou d'en retrancher quelque chose. Seulement, ils le font de façon si subtile que vous n'aimez le voyez pas. Ils ont pas fait cela en grand, pour que vous puissiez le voir se produire ouvertement. C'est Esther caché. Ils introduisent cela par le biais du raisonnement et de la compréhension humaine. Et cela emparera de vous si vous n'aimez le refusez pas. Retournez à la Pentecôte avant qu'il n'ait mis soit trop tard. 89-3 Mais, comme d'habitude, les gens n'aimés prêtent pas attention à elle, avertissement de Dieu. Ce feu du réveil, nourri de la parole sacrée, Esther si merveilleux, et la manifestation de elle, esprit Esther si béni, une petite crainte se glisse dans le cœur et chuchote, comment ferons-nous pour protéger cette vérité que nous avons? Que pouvons-nous faire pour voir à ce que ce réveil continue? C'est Esther là que elle, esprit antéchrist entre et chuchote, écoutez, vous avez la vérité maintenant, voyez donc à ce qu'elle n'ait mis se perde pas. Faites une organisation et établissez comme credo ce que vous croyez. Mettez tout cela dans un manuel d'église. Et ils le font. Ils font une organisation. Ils ajoutent à la parole. Et ils meurent. tout comme Ève Esther morte pourrait-ce être méprisée sur une seule parole. C'est Esther la parole de Dieu qui donne la vie. Et ce qui compte, ce n'est Esther pas ce que nous disons de la parole. Mais c'est Esther ce que Dieu a dit. Nous voulons aussi parler davantage de la puissance de la révélation dont frère Branham dit. Dans son sermon, Christ est à révéler dans sa propre parole 22 août 65 p. 114. Qu'il n'y croit même pas. Comparons donc ce que nous lisons à propos de la vraie épouse vierge à la fausse église prostituée. Christ a révélé dans sa propre parole 22 août 65 p. 114 dans elle, âge de la Odyssée. Les gens étaient quoi? Nus, le sont-ils? Aveugle. À quoi sert la lumière à un aveugle? Si un aveugle conduit un aveugle, Néhémie tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Nu. Aveugle et tu Néhémie le sais pas. Même leurs facultés mentales ont disparu. Leurs facultés spirituelles de compréhension mentale et spirituelle. Vous voyez? Emportés. Enflédés, orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Ennemis des gens de bien. Ayant elle, apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force, la puissance de la révélation. Ils n'y croient même pas. Vous voyez? Ils n'y croient pas en des choses telles que les prophètes. Et donc? Ils n'y croient pas. Il croit que Malachie 4 doit être une certaine église ou une certaine organisation. Quand il est venu la première fois, il était un homme. Quand il est venu la deuxième fois avec une double portion, c'était un homme. Quand il est revenu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un homme. Vous voyez? Dans les derniers jours, lorsque les lumières du soir commenceront à briller, les yeux s'ouvriront et vous verrez où vous allez. Alors le corps Esther déjà formé, debout sur ses pieds, se mettant en mouvement, se déplaçant par le Saint-Esprit. Quoi? Le même qui s'estermue sur les prophètes qui ont écrit la Bible. Le même Saint-Esprit se mouvant dans un corps, rempli du Saint-Esprit, s'estermue dans le Saint-Esprit en dehors de toute organisation et de toute patrie, langue et peuple. Observez donc la comparaison entre l'église de Laodicée et l'épouse. L'église esternue. Pas de parole. Juste des programmes d'église autour de quelques credos. Mais complètement nue. Et en plus de cela, elle est aveugle à ses conditions parce que mentalement, elle est foutue. Mais comparez cela à l'épouse de Christ qui est correctement sage. Et vêtu de la tête aux pieds de la parole de Dieu, de sorte que la parole est au-dessus d'elle, en dessous d'elle, devant elle et derrière elle. Et ses stères sont boucliers. Et ses défenses sont boucliers. Son arme offensive, épée de la parole. Et sa couronne. Tout bien considéré, elle est tellement en avec la parole et vous savez quoi? Sa consolation Esther le fait qu'elle soit vêtue de la parole de la tête aux pieds. Ses pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile, de sorte que ses chaussures lui vont exactement comme il faut. Et elle est à l'aise avec sa préparation de l'évangile. Sa tête est ornée de la couronne de la juste sagesse. Et elle est prête pour son apparition. Et c'est que quand il paraîtra, elle paraîtra avec lui dans la même gloire. La même doxa, les mêmes opinions, valeurs et jugements, ce qui est à la parole de Dieu. 2 Timothée 4.8 Désormais la couronne de justice est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. Colossiens 3.4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et nous savons que l'épouse se préparera. Car elle se vêtira de tout l'ensemble de sa robe de mariée. Et elle sera vêtue de la parole de Dieu de la tête aux pieds. Et elle apparaît comme lui, avec lui dans la même doxa. Elle reçoit ce que Dieu dit d'elle et elle s'avance ensuite pour faire ce qu'il lui demande de faire. Apocalypse 19.7 Réjouissons-nous et soyons dans elle allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de elle, agneau sont venues et son épouse Esther préparée. Apocalypse 22.17 L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut, prenne de elle, eau de la vie, gratuitement. Maintenant, permettez-moi de relire le paragraphe 159 et cette fois-ci jusqu'au paragraphe 161. Mais avant, j'aimerais préparer cette dédicace. Alors continuons à lire, en commençant par la deuxième moitié du paragraphe 159b et lisons jusqu'au paragraphe 161. Même leurs facultés mentales ont disparu, leurs facultés spirituelles de compréhension mentale et spirituelle. Vous voyez? Emportés, enflédés, orgueil, et regardez leur centre d'attention aimant le plaisir plus que Dieu. Et à cause de cela ils deviennent déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant elle apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, la puissance de la révélation, ils n'y croient même pas. Vous voyez? Maintenant, continuons avec les pensées qui suivent. Il dit, il n'y croit pas en des choses comme les prophètes, et ainsi, il n'y croit pas. Il croit que Malachie 4 doit être une certaine église ou une certaine organisation. Maintenant, j'aimerais m'arrêter ici et dire ceci. Bien qu'il y ait beaucoup d'églises qui croient en l'accomplissement de Malachie 4 en 7 heures, et bien que beaucoup d'entre elles professent que cela parlait de frère Branham, mais beaucoup d'entre elles prêchent leurs propres paroles ce qui ajoute à la parole de Dieu, et donc pervertissent ou polluent le ruisseau pur de la vie de Dieu par leurs propres paroles, faisant dire aux Écritures, telles que celles de Malachie 4, des choses telles que, puisque le prophète Esther partit, Dieu Esther maintenant dans son église, et puisqu'il croit que Dieu Esther dans son église, il le prêche, et donc par ce qu'il prêche, ils admettent qu'une Néhémie croit pas que Malachie 4 parle du ministère d'un seul homme. Et remarquez comment frère Branham souligne ici qu'il s'agit du ministère d'un seul homme, et non d'un groupe. Et pourtant vous les entendez prêcher aujourd'hui à propos d'une super église, et de l'église ceci, et de l'église cela, ou de l'épouse ceci, et de l'épouse cela. Maintenant, frère Branham Néhémie s'est jamais focalisé sur l'épouse. Il a dit, mon ministère Esther de le déclarer, qu'il Esther ici. Nous voyons donc que son ministère et son message se focalisaient sur l'époux. Même certaines de ces histoires qu'il racontait qui, à première vue, semblaient se focaliser sur l'épouse. Comme son histoire sur l'armure étoilée de l'épouse. Bien qu'une grande partie de l'histoire se rapporte à la façon dont la petite femme s'est gardée et s'est préparée à la venue de l'époux. Mais sans sa foi en l'intégrité de la parole de l'époux, elle n'aurait jamais cette foi. Donc, le vrai thème de cette histoire est comment l'époux a tenu parole. Et comment l'épouse a réagi à cette promesse. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle. Février 2023. Veuillez adresser toute correspondance, ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.